L'émission a été préparée par Romain Debecq-Delièvre, Alice Ramon et Inès Duperron, réalisée par Véronique Villa, avec aux manettes Jacques Azubert.
Vous avez séjourné souvent à Paris?
J'habite Paris une fois pour presque un an. J'ai travaillé au Montmartre. Et c'était à Paris que j'ai écrit pour la première fois des poèmes avec le rythme du jazz, parce que j'écoutais le jazz à Montmartre toutes les nuits. Et alors, je crois, je vais voir si je peux faire ce rythme du jazz dans les mots de la poésie. Et c'était à Montmartre que j'ai écrit ces premiers poèmes du jazz.
Eh bien, ça, c'est merveilleux que M. Langston News ait, somme toute, écouté beaucoup de jazz à Paris. C'est tout à l'honneur des, de l'honneur des jazzmen parisiens.
Qu'ils soient présents en tant qu'anciens combattants, étudiants, artistes ou ouvriers, les Africains en provenance de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar se retrouvent en France pendant l'entre-deux-guerres. Parce qu'à l'époque, peu de Français de la métropole ont visité l'outre-mer, ces Africains rendent visible et tangible un empire qui sinon reste du domaine de l'imaginaire, connu par le filtre des romans, des grands reportages ou encore du cinéma. Le regard de ces migrants de l'époque nous révèle à quel point Paris était une métropole coloniale, terme qui reflète non seulement littéralement le rôle de cette ville en tant que capitale d'un empire, mais aussi la manière dont les Africains investissent Paris, font d'elle un domicile, un lieu de travail, un lieu de plaisir, un centre, enfin, pour leurs revendications sociopolitiques, leur capitale. Il est 14h, passé de 2 minutes, les mots d'une de nos invitées du jour comme mise en bouche. Regards étrangers, regards capital, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. La France et certaines questions qui nous agitent, vues avec un peu de champ, avec un peu de distance, supposant que cela nous offre un peu de liberté. Voici le principe de Chantier Radio que nous entreprenons depuis hier. En fin d'émission, nous ajouterons à cela un peu de la distance qu'offre aussi l'archive, avec 5 voix d'artistes, d'intellectuels, de chercheurs étrangers, l'heure de leur arrivée ou de leur passage en France. Aujourd'hui, il s'agit de Josephine Baker avec sa mère et sa sœur, le 4 juin 1949, au micro de Marcel Sauvage pour la RTF, elle chante les louanges de l'accueil français à l'égard des personnes de couleur.
Et ma mère est tellement heureuse et tellement enchantée, elle ne revient pas. Elle se dit tous les jours, elle se met à genoux parce qu'elle est très pieuse et elle remercie le ciel de l'avoir envoyée en France. Elle dit, enfin je sens que je suis quelque chose et quelqu'un et égal à des autres, malgré que mon couleur n'est pas la même.
Archive idéaliste et au moins deux amours vers 14h50. C'est donc le deuxième temps d'un chantier que nous avons appelé « La France vue de l'étranger ». À pile 2 mois du second tour de la présidentielle, nous profitons de l'espace, du recul, de la liberté qu'offre parfois d'être ou d'avoir été étranger dans un pays pour pouvoir penser certaines des questions qui l'agitent. Retour aujourd'hui sur un certain Paris des années 20-30 où se rencontrent des hommes et des femmes migrants d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, pardon, de Madagascar, ou encore des Antilles et leurs homologues français. Féministe. La question est de savoir pourquoi cet espace-temps est si peu connu par nous autres, les Français, peut-être ce qu'il en demeure, par exemple dans la préoccupation d'une jeune génération de chercheurs et de militants pour l'intersectionnalité des luttes. Jennifer Boitin, vous êtes historienne, vous êtes professeure associée d'études francophones et d'histoire à l'Université d'État de Pennsylvanie et votre livre Colonial Metropolis, qui n'a pas été traduit mais publié aux États-Unis, fait le portrait justement de ce Paris sur lequel on va s'attarder un peu. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour et merci.
Avec plaisir. Laurence Safou, alias Mrs. Roots, vous tenez un blog du même nom. Votre deuxième roman, À main nue, sera publié ce 20 mars aux éditions Synapse et vous faites peut-être partie de cette fameuse génération que j'évoquais très brièvement. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Hier, Todd Shepard revenait sur un voyage d'adolescence qui, à l'époque, il a à peu près 16-17 ans, fonde son regard de jeunes hommes américains sur à la fois le peuple français, entre guillemets, mais aussi de la fixation, de la préoccupation de ce peuple français sur ce qu'il appelle, lui, l'homme arabe. Est-ce que vous, vous sauriez dire, Jennifer Boitin, comment est-ce que se fonde votre propre regard sur la France et pourquoi est-ce que à la fois cette période, les années 20-30, mais aussi la capitale, mais encore ce qui s'y traite, a attiré votre attention en tant que chercheuse franco-américaine?
Oui. Alors, pour moi, c'est peut-être un voyage contraire. D'abord, je dois préciser que je suis aussi à l'Institut d'études avancées de Paris cette année. Donc, je passe toute l'année à Paris, ce qui est rare pour moi. Parce que moi, le voyage, c'était inverse. C'est-à-dire que j'ai quitté la France à 17 ans pour aller faire des études aux États-Unis, qui est aussi le pays de ma mère. Et que c'est là-bas, quelque part, que j'ai commencé à découvrir toute une série de théories, de textes qui parlaient de questions dont je n'avais pas vraiment parlé au lycée ici, c'est-à-dire des questions de colonialisme, de théorie postcoloniale, comme on disait, les textes de Saïd et autres, et aussi, évidemment, qui parlaient de questions de race, vraiment dans le contexte noir américain, mais qui me semblaient tout particulièrement intéressants par rapport au contexte français. Et donc, quand j'ai entamé des recherches pour ma thèse, je suis revenue dans les archives françaises, cette fois-ci, les archives d'outre-mer tout particulièrement, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de questions qui tourner autour de cette thématique du colonialisme et que le mot race était bien utilisé en France, bien que n'étant pas nécessairement accepté, évidemment légalement en tant que tel, mais socialement était utilisé. Et surtout, ce qui est arrivé, c'est que je pensais que j'allais faire une étude du jazz dans le Paris de l'entre-deux-guerres. C'était là que j'avais commencé mon travail, mais quand je suis rentrée dans les archives, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes présentes dans tous ces clubs, pas seulement Josephine Baker, mais d'autres personnes dont je ne connaissais pas encore le nom, et qu'il y avait en réalité toute une politique qui entourait cette vie socio-culturelle qui est évoquée par exemple comme Langston Hughes, qui est connu comme le poète du jazz, mais qu'en réalité il y avait tout un autre circuit, y compris de noirs africains et d'antillais qui participaient à ce foisonnement socio-culturel politique qui était la métropole coloniale de l'époque.
Et qui en certains lieux, ça va être l'objet de la discussion, a peut-être rencontré ou manqué des préoccupations politiques, elles présentées comme étant franco-françaises. Alors, quel a été le voyage pour vous, Laura Ensafou? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est aussi par un détour par l'étranger, d'une certaine manière, que vous en venez à travailler un corpus pas exactement similaire, mais qui croise celui dont il va être question.
Oui, tout à fait. Dans la mesure où, donc moi, je suis née à Orléans, donc voilà, petite ville du Loiret. Donc j'ai grandi en ne me voyant pas. C'est-à-dire que j'ai fait des études de littérature où je suis face à une littérature où des femmes qui me ressemblent sont, pour la plupart du temps, soit des femmes esclaves, soit des servantes, ou alors ne sont quasiment inexistantes. Et c'est après avoir constaté, après m'être cherchée finalement dans cette démarche d'identification, par une sorte de transmission, ma mère m'a parlé de Toni Morrison. Et donc c'est lorsque j'ai découvert son livre Tar Baby, donc qui retrace la vie d'une jeune femme caribéenne venant en métropole notamment pour faire ses études et revenant donc dans les îles avec toute une question sur le colorisme, toute une question aussi sur le racisme et aussi le fait d'être une femme noire, etc., etc., que je me suis demandé comment ça se fait qu'à l'âge de 20 ans, la chose qui me semble le plus proche de moi soit dans le roman d'une femme afro-américaine finalement. Pourquoi en France et par le corpus que l'on a dans le cadre universitaire, mais même en allant tout simplement dans une librairie, je ne me voyais pas. Et donc c'est à la suite de ça que j'ai ouvert en fait mon blog, qui donc à la base était vraiment dans une démarche de décortiquer mon identité, c'est-à-dire moi en tant que femme noire française avec des origines martiniquaises et congolaises, et le tout formant mon identité sans que je n'ai à choisir en fait entre chacune de ces facettes. Et ben c'est très dur. c'est très dur parce qu'on est face à une société française qui veut nous classer et qui veut nous catégoriser. Donc donc finalement c'est en me rattrapant par rapport à un corpus très foisonnant finalement afro-américain que j'ai pu commencer ce processus d'identification.
Est-ce que c'est un voyage qui passe que par la littérature et donc en vous plongeant dans un certain corpus littéraire ou un corpus d'essais, ou est-ce que c'est aussi passé par des voyages géographiques?
Le tout en même temps. Je pense que déjà ce qui a été très prégnant jeune, c'est tout ce qui était séries en fait, séries et films afro-américains. Moi quand je vois la saga Racine voilà, sur la 6, et que c'était vraiment une espèce de rendez-vous familial où c'était le seul support qu'on en avait de voilà ce que c'est l'esclavage. voyage, en fait. Voilà comment ça s'est passé. Et pourtant, donc, c'est une adaptation du roman d'Alex Haley, qui est afro-américain aussi. Après, il y a eu les séries dans les années 90, qui donc ont un petit peu jonché, enfin, qui se sont un peu distillées dans mon adolescence. Mais je pense que, effectivement, le fait d'aller sur place, d'abord en Martinique, donc, qui, même si, voilà, c'est quand même un département français, on le fixe dans une sorte de terre lointaine, d'altérité d'ailleurs, c'était aussi une sorte d'identification. Et à la fois aller au Congo pour la première fois, donc je suis allée pour la première fois lorsque j'avais 15 ans, on découvre aussi une autre population, mais où on est finalement quand même toujours différent, parce que je suis métropolitaine en fait, même si je suis une femme noire avec des origines, etc., etc., même si je suis très proche de mes origines et même si mes parents ont toujours fait ce travail de transmission, n'empêche que quand je vais au Congo, je suis française, et quand je vais aux Antilles, je suis métropolitaine. Donc je pense que ça m'a vraiment permis de travailler en fait sur cette notion d'identité. Qui formule déjà notre identité? Est-ce qu'on est défini par le regard des autres? Et comment finalement c'est un acte politique et militant aussi de revendiquer son identité en ces termes?
Et c'est intéressant parce que vous décrivez la position d'étrangère, entre guillemets, dans laquelle vous vous êtes retrouvée au Congo et aux Antilles, mm-hmm. et qui vous a permis de porter un regard à la fois sur ces deux points mm-hmm. qui constituaient vos origines, mais aussi en retour sur la France. Alors, est-ce que vous diriez, comme le formule l'hypothèse de cette semaine, à savoir la France vue de l'étranger, en supposant que ça nous donne une possible, en tout cas que ça donne aux personnes que nous invitons, une possible liberté de penser, un peu de distance, est-ce que c'est quelque chose dont vous faites l'expérience, Jennifer Boitin? Le fait de pas être complètement, totalement pris pour un bien ou pour un mal d'ailleurs, hein, dans une communauté nationale, est-ce que ça permet de la penser différemment?
Je pense que oui. Je pense qu'on a toujours un petit peu en effet ce sentiment d'être d'ailleurs. En plus, je suis entre deux langues, ce qui complique, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes qui se trouvent entre de multiples cultures. Ça a des avantages, je pense, parce que des avantages de naïveté, parce qu'on ne sait pas toujours au départ ce qui va provoquer une réaction dans un pays ou dans un autre. Et ça permet de poser des questions presque innocentes, mais qui permettent de mieux comprendre certains des fonctionnements de la société en question et des recherches et de la politique aussi. Là où ça devient plus compliqué, c'est justement qu'on a toujours un regard qui est porté sur soi, de ne pas être tout à fait chez soi, de ne pas tout à fait mériter sa place dans ce pays-là. Et c'est compliqué dès qu'on a, je pense, ces langues et ces cultures un peu mélangées dans notre parcours.
Regard d'autant moins justifié, si tant est qu'il le soit, quand on est française et qu'on est née en France et qu'on est née à Orléans et qu'on a grandi à Orléans. Pourtant, est-ce que c'est une qualité d'étrangère qui vous a été renvoyée?
En fait, je pense que c'est... Je sais pas si c'est vraiment... On peut parler en termes de qualité, mais c'est vraiment une sorte de négation, en fait. Toujours être dans la justification de pourquoi on est là, en fait. Être toujours renvoyé à une sorte d'ailleurs que les gens ne savent pas forcément d'ailleurs viser sur une carte, en fait. C'est juste, tu n'es pas d'ici, ou du moins, tu ne l'es pas assez. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Et finalement, très jeune, on intériorise ça très vite. Et on se retrouve dans une... Enfin, personnellement, je me suis retrouvé dans une démarche où je pensais avoir des réponses, une sorte d'acceptation en allant au Congo ou en allant en Martinique, en me disant que ça allait compenser ce rejet finalement qu'il y a en métropole et que j'avais vécu par rapport à mon identité. Et finalement, y a aussi une sorte de remise en question sur le fait que... Même si on est proche de ses racines, etc., etc., on est française, on a une culture française, on a on a appris, etc., notre histoire, etc. Donc, je pense que déjà construire son identité dans la négation, c'est quelque chose de très récurrent en fait en tant que femme noire en France. Mais à la fois, je pense que l'avantage, c'est aussi de revendiquer une identité plurielle dans le sens où avoir donc un père congolais, c'est aussi avoir un autre versant de l'histoire que l'on apprend en classe. C'est aussi avoir le point de vue des dom-tom par ma mère, c'est aussi avoir conscience que ce qu'on définit comme la culture française est très diversifiée et a beaucoup d'influences dont on ne parle pas. C'est aussi savoir qu'on a un roman national qui est finalement parfois tronqué sur certaines parties et avoir une sorte de recul. Et je pense que ça contribue en fait à finalement donner cette curiosité par rapport au fait de creuser sur des textes qu'on ne trouve pas en France. Et comme le disait pardon.
Jennifer. Jennifer,
comme le disait Jennifer. Il y a cette démarche d'aller chercher dans d'autres langues. Donc certes, voilà, le Congo, Brazzaville, c'est quand même l'Afrique francophone, mais la tradition orale, les textes en lingala, ça existe, etc. Il y a ce travail en fait de recherche qui se fait aussi, et finalement aussi ce recours au texte afro-américain en anglais,
qui
ouvre totalement cette vision-là. En fait.
Faut dire par ailleurs que les années 20 sont des années de grands changements tout de même pour les femmes. On veut les remettre au foyer, mais au fond, ça marche pas bien. En 1917, les femmes ont coupé leurs cheveux et elles portent des jupes beaucoup plus courtes. Il y a un changement dans la physionomie des femmes. Les femmes continuent à travailler, un peu moins que pendant la guerre, mais quand même elles continuent. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'elles passent un baccalauréat comme les garçons et elles sont étudiantes. Donc les années 20-30 sont des années de changement pour les femmes, alors qu'on ne leur donne toujours pas le droit de vote. Alors, il y a un féminisme assez actif, peut-être un petit peu moins actif qu'avant 14, dont la principale figure est Louise Weiss, et qui était extrêmement dynamique et qui revendiquait sur les marchés, par exemple. Elle voulait que les femmes aillent sur les marchés, distribuer des tracts au nom de « La femme française veut voter ». Et alors, ce qu'elle a fait aussi, elle a demandé à ses amis de s'enchaîner aux grilles du Sénat, parce que quand même, la Chambre des députés avait proposé le vote pour les femmes, il avait même voté quand même, faut pas oublier. C'est le Sénat qui refuse à chaque fois. Le Sénat est une chambre à cette époque-là, rurale. Il représente les intérêts ruraux, ce sont des notables, bon, et à la campagne, on n'est pas du tout pour le droit de vote des femmes. Et tous ces sénateurs sont les représentants de ce qu'il y a de plus patriarcal, patriarcat familial rural. Les radicaux sont des laïcs et ils pensent que les femmes en France sont toujours très influencées par l'Église, donc ils sont très hostiles. Et à la limite, c'est même eux qui vont rester hostiles le plus longtemps. Par exemple, au moment de l'Assemblée d'Alger en 1944, quand on va discuter du droit de vote des femmes, les gaullistes et les communistes sont tout à fait pour le droit de vote des femmes et les radicaux font encore des objections. Ceci dit, ils accepteront tout de même.
La voix de Michèle de Perrault, historienne, elle s'exprime donc à propos du mouvement des suffragettes, mais aussi plus généralement de l'état du féminisme dans les années 20-30. Et elle évoque la figure de Louise Weiss ici au micro de Stéphanie Duncan sur France Inter en mai 2012. Vous disiez tout à l'heure, Jennifer Boitin, dans un premier temps, je pense faire ma thèse sur le jazz à Paris dans ces années-là. Elle vous est d'abord attrapée par l'ébullition culturelle et politique de ces bars de jazz. À quel moment l'autre ébullition ou une ébullition parallèle qui serait celle de la lutte des femmes pour l'égalité des droits vous apparaît comme inévitable et incontournable?
Alors, c'est au moment où je me retrouve dans les archives de la police, qui était en train de surveiller les bars parce qu'ils s'intéressaient aux questions de nationalisme et d'anti-impérialisme qui circulaient dans ces bars-là. Et dans les rapports de police, j'arrêtais pas de voir des noms de femmes que je ne reconnaissais pas dans beaucoup de cas, y compris des noms de femmes martiniquaises, les sœurs Nardal, André, Paulette et Jeanne, qui étaient à Paris à cette époque-là, mais aussi de femmes métropolitaines, blanches, qui appartenaient à des sociétés féministes ou à des groupements très féministes. Et je me demandais ce que faisaient ces femmes dans ces archives, à côté de noms d'hommes qui étaient beaucoup plus connus, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, et puis aussi d'autres hommes qui étaient moins connus, comme Lamine Senghor, qui a été un leader aussi anti-impérialiste à l'époque, ou Tiémoko Garankouyaté, qui était aussi très présent. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre ce que ces mouvements féministes avaient à voir avec ces mouvements anti-impérialistes, pourquoi ils se retrouvaient dans les mêmes lieux, et ce qu'ils se disaient entre eux, et comment ils se communiquaient entre eux pendant cette période.
Et alors ça, on imagine que les rapports de police ne le disaient pas. Donc justement, comment est-ce que le croisement de ces questions politiques, mais aussi de ces luttes et de ces modes de lutte, vous est apparu et dans quelles archives?
Alors, en partie, les archives de la police en parlent parce qu'ils avaient des personnes qui étaient présentes pour observer les réunions. Et on avait parfois énormément de détails sur ce qui se disait pendant les réunions. Mais ce qui se faisait aussi, et ce que je fais moi dans mes recherches, c'est que je passais par la littérature. Je suis passée par la littérature et par les journaux qui étaient publiés. Parce que là, on peut retrouver toutes les personnes qui publiaient ensemble dans un même lieu. Et évidemment, c'était avant les blogs, donc ils étaient obligés vraiment de trouver les fonds qui provenait souvent d'ailleurs du Parti communiste, même si les sociétés n'étaient pas nécessairement communistes. Et ils devaient pouvoir trouver des lieux qui leur permettaient d'expliquer leurs idées. Et ce que j'ai vu en lisant, par exemple, la Dépêche africaine, qui était organisée surtout par des Antillais, mais pas seulement, et les Sœurs Nardal, par exemple, y publient, c'est que souvent des femmes européennes qui, je dirais au début, s'intéressaient plus au féminisme et à la question sociale en France, petit à petit, en lisant les articles, par exemple, des Sœurs Nardal, etc., commencent à s'intéresser aussi à la question coloniale. Donc il y a une transition qui se fait à travers ce lieu très, très intéressant du journal, de la revue. Et c'est le cas en particulier pour les Sœurs Nardal qui commencent vraiment à parler vraiment d'une condition noire dans leurs textes à cette époque-là.
Et sur le plan des idées, comment est-ce que s'opère, parce que en effet, à la fois cela paraît une évidence qui est reprise par des mouvements qui prônent l'intersectionnalité des luttes aujourd'hui, mais sur le plan des idées, comment se rencontrent les préoccupations de la condition noire des Sœurs Nardal et celles des féministes qui, comme on l'entendait dans la voix de Michel Perrault, brandissaient l'idée d'un droit de vote pour la femme française, dont on entend davantage qu'elle est blanche plutôt qu'elle est d'une certaine manière universelle. À quel endroit ça se croise ?
Alors ça se croise, je dirais tout simplement, lorsque les femmes françaises féministes, pas toutes, mais celles qui étaient le plus attentives à la condition justement noire, se rendent compte qu'il y a énormément d'hommes et de femmes en provenance des colonies qui n'ont pas non plus le droit de vote. Donc il y avait certains hommes en provenance des Antilles justement et des quatre communes du Sénégal qui pouvaient voter, mais pour l'énorme majorité, il n'y avait pas de vote.
Donc c'est une congruence de conditions en
voilà,
fait.
Voilà, donc les conditions sont très similaires et il y a, pas toutes je dirais, mais il y a des féministes qui reconnaissent qu'il y a un problème très similaire. Donc évidemment, elles sont beaucoup plus chez elles en métropole que ces migrants noirs qui sont souvent dans des situations très précaires en réalité. Mais néanmoins, elles reconnaissent qu'au niveau des droits, il y a des manquements en place des deux côtés qui sont à peu près égaux. Et c'est là que la conversation commence à devenir très intéressante. Pour les Sœurs Nardal, pour Paulette Nardal en particulier, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est, je dirais, une des seules à vraiment avoir pratiqué l'intersectionnalité, pas seulement à l'avoir pensé, parce qu'elle a su réunir, par exemple, dans son salon à Clamart, des Noirs américains de la Harlem Renaissance avec des Antillais, avec des Africains et avec des Françaises blanches, et d'ailleurs des hommes blancs aussi, pour parler de toutes ces questions. Et elle dira, par exemple, très rapidement, qu'elle prend conscience de sa race, en réalité, à Paris. À travers son expérience. Non seulement le fait de parler avec toutes ces personnes, mais aussi parce qu'elle est confrontée à une image très connue, et on a entendu sa voix tout à l'heure, c'est celle de Josephine Baker, qui est, je dirais, l'idéal sensualisé de la femme noire, mais qui ne représente absolument pas la réalité de toutes celles qui sont à Paris pour leurs études.
D'ailleurs, on l'entendra de manière criante tout à l'heure.
Et ce qui est le cas, justement, des Sœurs Nardal, qui sont à Paris parce qu'elles ont justement obtenu un bac et parce qu'elles sont en train de finir des études ici.
Oui, qui sont les premières en plus à arriver à la Sorbonne, enfin voilà, avec un. Enfin, qui vont aussi. Je pense aussi qu'on a une représentation qui, jusqu'à aujourd'hui, hein, nous a été transmise comme une mythologie de justement de cette époque comme très masculine en fait, où on parle beaucoup d'Aimé Césaire, etc. Mais le fait de réunir justement tous ces intellectuels, comme disait Jennifer, il y avait cette démarche des Sœurs Nardal qui a été en fait le point de fuite de la négritude en fait.
Je sais pas si c'est Paulette, Jeanne, mais en tout cas l'une d'entre elles est la première femme noire à entrer en Sorbonne pour faire
Paulette,
ses études. C'est Paulette,
tout à fait,
ouais. Justement, Laurent Safou, pour vous, comment se fait, vous avez bien décrit tout à l'heure la manière dont par un voyage à la fois littéraire et géographique, vous en êtes venu à penser la complexité de votre identité, mais principalement peut-être du côté de votre identité noire. Comment est-ce que vous avez compris que ça croisait indéniablement votre identité de femme ?
Je pense que déjà par l'hypersexualisation, on grandit en étant une jeune fille adolescente, etc., on a un univers qui nous est renvoyé. C'est-à-dire que très jeune, c'est pas du tout rare que des jeunes filles noires de 14 ans se voient interpellées dans la rue avec cette image de pantalon ou de choses comme ça, très animalisées, qui vient tout droit en fait d'un imaginaire colonial. Donc d'abord, on le subit comme étant justement des micro ou macro agressions qui sont le fruit du hasard ou qui petit à petit, on se rend compte qu'elles sont construites. Puis au fur et à mesure,
qu'elles ont une histoire.
Voilà, des siècles d'histoire et surtout qui sont quasiment enracinée. Je pense que donc déjà il y avait mon expérience personnelle qui là encore n'avait pas de livre sur l'afroféminisme il y a quand même 4 ans en fait, donc qui n'était pas acté. Donc on le vit comme une expérience personnelle que on tente finalement de théoriser au fur et à mesure en grandissant. Et c'est finalement donc d'abord par la littérature, toujours par le travail de Toni Morrison, mais aussi celui de Leonora Miano, que la littérature montre qu'il y a et même le travail de Mariam Abba, auteure sénégalaise, qui montre que la féminité noire en elle-même implique à une certaine réception en Occident, à une certaine manière d'être dépeinte selon des codes coloniaux ou même parfois fruit tout droit de l'esclavage en fait. Et au fur et à mesure, donc c'est d'abord passé quand même par la fiction avant même de finalement tomber sur des textes théoriques sur ce sujet. Mais la première référence qui m'a fait penser à ma condition de femme noire, c'était vraiment le blog en fait de Mrs. Dreadful, qui est donc en fait le premier blog français à parler d'afroféminisme sur la toile, et qui posait des mots en fait sur toutes ces expériences, toutes ces influences, toutes ces constatations que qu'on ne soit pas comme étant construite au début, puisqu'on est très jeune au début, et finalement qui permet de relier en fait tout ça, notamment la notion d'intersectionnalité, comment le fait que le sexisme vécu par une femme noire est différent de celui vécu par une femme asiatique ou une femme arabe, etc., etc., etc. Donc il y avait vraiment un travail de traces finalement, de chercher des traces écrites. C'est plus facile de trouver de la fiction que de trouver des textes de femmes noires françaises sur ces questions-là.
Et d'ailleurs, ce premier levier de la rencontre avec Mrs. Dreadful et son blog vous ouvre la porte sur une série d'autres blogs et d'autres auteurs qui en France écrivent sur ce sujet-là. Mmh. Est-ce que vous avez eu la sensation en les rencontrant, vous racontez que vous prenez, un cartable, un sac à dos et que vous allez, on a presque une visibilité comme ça d'une carte de France, qui est une carte du web en fait.
C'est vraiment ça.
Est-ce que quand vous allez les rencontrer, elles vous disent aussi, puisque ce sont principalement des femmes, qu'elles ont commencé par avoir une expérience absolument pensée comme individuelle et personnelle et dénuée de toute construction historique et politique?
Totalement, parce qu'en fait, c'est toujours dans la réception, c'est ce qui nous est envoyé, c'est que on exagère en fait, que c'est le fruit du hasard si on a eu telle expérience ou non. Et c'est à force de rencontrer en fait chacune de ces femmes, et c'était vraiment ça, prendre mon sac à dos et aller à leur rencontre, qu'on voit qu'on a toutes des expériences similaires, mais presque à la virgule près en fait, qu'on a toutes que ce soit par rapport à l'âge aussi, la première fois que quelqu'un nous a renvoyé le fait d'être noir, ou la première fois qu'on a eu des insultes racistes, etc., etc. C'est un cheminement qu'une femme noire en France a très bien cartographié en fait. Et on a la même cartographie. Du coup, c'est en voyant cette cartographie, en rencontrant en plus des femmes de différentes régions, finalement, qu'on se rend compte de la portée systémique de la misogynie noire, donc cette corrélation entre misogynie et le racisme en France, et aussi à travers ces expériences, puisqu'on est isolé. Ça, c'est aussi un facteur qui finalement, on ne s'en rend pas compte au début à force d'être exposé à une culture afro-américaine, mais on est isolé, et qui dit isolement dit qu'il est difficile de partager non seulement nos expériences, mais de créer aussi d'autres références finalement francophones ou même françaises.
En fait. On y viendra.
En ce qui concerne par exemple la question de la représentation des femmes dans l'Algérie coloniale, il y a l'idée que on arrive, globalement les femmes sont voilées, et qu'on va en fait progressivement arriver à un dénudement, un dévoilement des femmes, qui conduit ensuite au dénudement, par exemple dans la mauresque au sein nu que Gilles a bien étudié. Et donc ce dévoilement est considéré comme un signe d'émancipation et de civilisation. Le dévoilement des femmes, et ça se traduit par exemple en 58 au moment de l'arrivée du général de Gaulle avec la bataille du voile, où on dit aux femmes si vous voulez vous émanciper, si vous voulez être vraiment assimilées au modèle français, alors il faut faire tomber les voiles. Par ailleurs, beaucoup de femmes algériennes vont les faire tomber, mais peut-être pas pour les raisons que la colonisation souhaitait, évidemment.
C'est la voix de Christelle Tarot, cette fois-ci dans l'émission Radio Libre diffusée en octobre 2009. Elle évoque de manière générale la fixation. Hier, on parlait de la fixation avec Todd Shepard de la France sur l'homme arabe. Bon, bien sûr, il y a des textes de Frantz Fanon qui parlent de la fixation d'une certaine vision française sur le voile des femmes, et peut-être plus principalement le voile des femmes en Algérie. Alors pareil, Jennifer Boitin, comment, même si c'est un peu plus tardif que l'époque que vous étudiez très très précisément, la question sous une couleur féministe en tout cas, rencontre une question clairement coloniale.
Alors, en réalité, j'aimerais prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale pour une raison, c'est qu'il s'agit en 46 de la question du débat sur le vote des femmes et s'il peut être étendu aux colonies. Et je pense que c'est un peu lié à la question du voile d'une certaine manière.
Bien sûr, parce que 58, c'est aussi le moment du collège et des questions du collège unique en Algérie. Et donc, c'est aussi la question de la citoyenneté des personnes vivant en Algérie.
Donc, je pars de là parce que ce qui s'est passé au départ, c'est qu'on a étendu le droit de vote, mais pas dans toutes les colonies. Et en particulier, pas au départ en Afrique de l'Ouest. Et il y a eu un mouvement énorme avec des milliers de Sénégalais en particulier qui sont allés manifester en disant c'est absolument injuste, en particulier pour les femmes des quatre communes qui sont françaises depuis vraiment des siècles, des décennies à ce moment-là. C'est assez choquant. Et donc c'est devenu un mouvement tellement important qu'ils ont été obligés de changer et d'étendre le vote à beaucoup plus de femmes. Donc ces manifestations ont fonctionné en réalité. Et ça rejoint donc ce débat autour, qui n'est pas du tout ma spécialité, Christelle s'y connaît beaucoup mieux que moi, mais ça rejoint un petit peu cette question de ce qu'on fait de la femme lorsqu'on débat les droits de toute une nation. Parce que ça, c'est quelque chose qui est, c'est donc la question de donner ou non le vote aux femmes africaines, c'est tout à fait lié au fait de si on peut imposer ou non le fait de voiler ou de dévoiler une femme. Parce que c'est lié à ce que fait une nation et ce que fait une nation française, coloniale ou indépendante.
Alors, justement, oui.
Ce qui est assez fascinant, c'est que justement, pile à ce tournant finalement dans les années 50, c'est au même moment où, notamment au Sénégal, on a beaucoup de femmes qui décident de prendre la plume, en fait, qui décident de publier, soit leur vécu ou des journaux intimes ou des choses comme ça, ou voilà, pour dire ce qu'elles vivent en fait dans leur quotidien. C'est assez parlant quand on sait que ça a été quand même une littérature féminine d'Afrique subsaharienne assez tardive, notamment au Sénégal. Donc ça fait un peu écho. Ouais.
Et ça fait aussi écho, qu'on le veuille ou non, à une période beaucoup plus contemporaine. Et par exemple, je pense à un appel de certaines associations LGBT en 2011 qui disent il ne faut absolument pas que notre lutte pour l'égalité, nos luttes féministes ou nos luttes pour les droits de chacun puissent croiser ou être utilisées par des préoccupations raciales et des préoccupations de discrimination. On sent qu'il y a une très grande ambivalence justement dans le regard français porté sur les femmes d'Afrique de l'Ouest ou les femmes du Maghreb au moment de l'empire colonial. Qu'est-ce qui migre de cette période-là à quelques dizaines d'années plus tard dans la période contemporaine et qui subsisterait ?
Alors, ça c'est une question, je pense que vous allez avoir peut-être une meilleure réponse que la mienne, mais ce que je dirais, ce qui m'intéresse beaucoup... Par exemple, quand je reprends pas seulement les textes des sœurs Nardal, mais Robert Hort, par exemple, ou même avant elle, Suzanne Lacascade, une autre antillaise, c'est qu'on a une série de textes dans lesquels les femmes, justement, parlent, elles sont la minorité des migrants noirs en France absolue. Donc, lorsqu'elles parlent de visibilité, c'est que vraiment, non seulement elles évoquent Joséphine Baker, mais elles sont vraiment une rareté. Et donc, ce sentiment d'isolation, je pense, est vraiment important dans la manière dont elles vont s'exprimer. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'elles parlent de la conscience de race qui leur est presque imposée par le regard de l'autre. Mais ensuite, elles en parlent de deux manières dans la littérature. Souvent, ce sont des petites nouvelles qui leur permettent de s'exprimer, mais aussi par des articles de journaux qui sont assez courts et qui, pour moi, quelque part, reprennent la question des blogs aujourd'hui et qui parlent vraiment du fait qu'elles sont aussi françaises, qu'elles ont aussi une identité de française. On le retrouve aussi dans les années 30, fin des années 30, début des années 40, les premières femmes africaines à être éduquées à l'école normale des jeunes filles de Rufisque, qui parlent aussi du fait qu'elles sont africaines, mais aussi françaises. Elles sont éduquées pour devenir les premières maîtresses, en réalité, dans le système français en Afrique de l'Ouest. Et dans tous ces cas, on retrouve cette volonté d'essayer et de maintenir une identité propre à la culture d'origine ou au pays dont elles proviennent, parce que géographiquement, elles ont quand même migré vers la France, et elles sont souvent la première génération à le faire, et aussi à vraiment revendiquer le fait d'être française. Et je pense que cette tension et c'est vraiment compliqué pour elles parce qu'elles ont plusieurs langues, plusieurs cultures. Elles essayent de les ramener. Donc, elles sont un petit peu, d'ailleurs, mais aussi très, très françaises. Et je crois que ça rejoint Vous avez certainement d'autres idées là-dessus.
Oui, tout à fait. Mais en fait, faut aussi voir que dans une perspective historique, les femmes, qu'elles soient africaines ou même les femmes noires en général, ont été racontées, en fait. Il y a toute une tradition de raconter la femme noire, parler à sa place, etc. Et puis ensuite, on a quand même des textes... alors bien sûr, il y en avait avant, mais en tout cas, le texte qui me vient notamment, c'est La parole aux négresses d'Awatiam, qui typiquement est dans cette démarche, donc Awatiam qui est sénégalaise, mais qui est déjà dans cette revendication de se réapproprier un discours et une voix qui nous a été en fait en général confisquée. Et là où on voit que même dans la littérature, cette appropriation de nos voix a conduit, enfin est restée parfois ou même, était même un procédé. Je pense notamment au cas de Mayotte Capetia, qui était en fait voilà un texte écrit par deux éditeurs parisiens et pas du tout par une jeune femme antillaise comme il a été vendu à l'époque, et qui a même finalement poussé même Fanon à critiquer un texte qui finalement n'avait personne derrière, donc sorte de tradition finalement de raconter les femmes noires ou même les femmes africaines en général. Là, il y a eu une rupture en fait qui s'est faite avec le fait de se réapproprier un récit où à la fois soit dans la fiction on était là pour susciter ou répondre à des exigences de ce qu'on appelle un regard blanc ou white gaze aussi dans les études de littérature américaine, et finalement de dire en fait dans nos termes comment on veut être défini. Et c'est très intéressant même au niveau des termes, qu'on voit que donc quand Awatiam parlait de négro-africaine, après on a parlé d'afro-européen chez les Nubians, donc encore des femmes noires mais qui cette fois-ci étaient dans la musique. On a toute une redéfinition qui est l'enjeu en fait par rapport à la réappropriation de ces textes, en fait de ces traces écrites au final. Feminism. P-U-S is why, lick it till I die. P-U-S is why, lick it till I die. P-U-S is why, lick it till I die. Lick it till I die, lick it till I was raised in the land of ice and snow. You can call me a vagina volcano, squirting lava all over old values, creating new landscape for old thinking people. So don't be hating though you're lonesome and we're dating each other. It's a statement of faith of the great shit that the clan is creating together. We haven't dressed yet, but who gives a shit? Cause it's a motherfucking press fest. Stay young, stay blessed, yes. No need to get shit though. Though you see 60 pieces coming local. It's our shit that we rock, yo. Should just go and buy a ticket to a motherfucking rap show. Oh, oh. Oh, oh, two fingers up, oh, 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 oh. I'm a feminist and I'm strong. I'm a feminist in a thong. I'm a feminist and I'm feeling it, feminist. Sing along.
Il y a des populations en France qui sont d'ascendance africaine, qui appartiennent à cet espace, qui ont peut-être des spécificités, mais lorsqu'on s'en approche, ce qu'on voit surtout, c'est que les Noirs en France, c'est pas des Américains et qu'ils n'ont pas envie d'être des Américains. Et qu'il faut arrêter de leur proposer que ce modèle-là. Quand on rend hommage en France à des figures noires, comme on l'a fait récemment au théâtre de l'Odéon, c'est des figures noires américaines. C'est une expérience qui est très 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 distante de celle d'ici. Et ça peut être dangereux à terme. Parce que si véritablement les Noirs de France décidaient d'épouser ce modèle-là, je pense que ça ferait vraiment voler en éclats pour le coup le modèle français.
C'est la voix de Léonora Miano, on a prononcé son nom depuis le début de l'heure. Elle est ici au micro de Sylvain Bourmeau en novembre 2016 sur France Culture dans la suite, dans les idées. Elle parle d'une seule polarité qui serait des modèles pour les femmes noires en France du côté des États-Unis. Alors pour tout vous avouer,
Est-ce que c'est représentatif de quoi que ce soit, je ne sais pas, mais lorsque nous avons voulu monter cette émission et la question d'un regard venu d'ailleurs, venu de l'étranger sur les questions féministes ici en France, on s'est rendu compte que c'était en effet très polarisé vers les États-Unis et très spécialisé du côté de l'afroféminisme, qui nous a été aussi une impression qui nous a été tout à fait qui a corroboré les propos de l'éditrice de Cambourakis, qui dit aussi, mais c'est aussi parce que ces textes sont traduits, c'est aussi parce qu'il y a des textes qui circulent beaucoup plus qu'en provenance d'autres regards et d'autres universités dans le monde. Alors est-ce que d'une part, peut-être Jennifer Boitin, ça dit quelque chose de l'état des études du féminisme, afroféminisme, et d'autre part peut-être Laurane Safou, est-ce que la question d'une seule polarité pour les femmes noires en France est problématique. Jennifer Boitin.
Alors tout d'abord, je dirais que c'est un problème qui existe depuis justement les années 20 et 30, puisque les revues les plus connues ont, par exemple, la revue du Monde Noir, est traduite et elle est bilingue. C'est-à-dire que il y a une page en français, une page en anglais. Donc ça a été une tension dès le départ, je pense. Ça, c'est déjà important de le dire. Mais alors, pour ce qui est des études actuelles, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, une autre thématique qui m'intéresse dans mon livre, c'est la question de la masculinité noire. Et au départ, j'ai cherché en français des sources théoriques qui me permettraient de comprendre ces questions de masculinité, de virilité, et j'ai vraiment rien trouvé précisément lié à la condition noire. Donc je me suis tournée évidemment vers les textes qui avaient été publiés en anglais de Hazel Carby, qui a écrit Race Man, Les Hommes de Race, et ainsi de suite. Il y a énormément de textes qui sont très bien articulés, mais qui sont précisément liés à la question des Afro-Américains. Alors je m'en suis servie parce que c'était utile, mais de manière très attentive. Et ce que j'ai fait, parce que ça m'inquiétait beaucoup, et ce que j'ai fait d'ailleurs...
Attentive à ne pas faire des parallèles qui ne se valaient pas.
Voilà. Et l'autre chose, c'est de mettre en place, toujours de prendre les textes écrits et publiés par les hommes et les femmes noires, en France, prendre leurs paroles et voir ce qu'ils ou elles disent sur la condition noire. Et parfois, ça me permet de mieux comprendre, d'un point de vue théorique, les liens avec les États-Unis, mais sans toutefois vouloir imposer le regard des États-Unis, des situations aux États-Unis en France. En même temps, au niveau du vocabulaire, de remettre dans un contexte beaucoup plus global, qui est le but de beaucoup de ces personnes pendant les années 20 et 30, l'anti-impérialisme, le féminisme,
il y a une idée d'internationalisation qui est très forte.
Oui, absolument, très très forte. Quand Paulette Nardal écrit de ses sœurs africaines, et quand Suzanne Lacascade titre son roman, en réalité Claire Solange, mais elle parle d'une âme africaine pour une femme antillaise. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre le lien entre des peuples qui viennent de régions très différentes, mais qui ont aussi quelque chose en commun. Donc j'essaye de faire la part de ce qui est ce désir, vraiment, de réunir des populations très différentes, avec des langues et des cultures très très différentes, d'une part, et d'une autre part, et c'est le cas aussi des Sœurs Darnal et d'autres, c'est de repenser la spécificité française de cette question. Et il y a eu un débat énorme autour des Sœurs Nardal sur si oui ou non elles comptaient comme féministes, qui a été provoqué par une chercheuse américaine justement, qui disait non parce qu'elles n'étaient pas féministes dans le contexte américain. Et moi, ma réponse, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment regarder d'abord le contexte du féminisme en France, qui est quand même très différent. Aux États-Unis, elles avaient déjà le vôtre, entre autres. Mais aussi vraiment de comprendre ce que ça voulait dire d'être dans cette minorité absolue et donc de devoir faire attention à tout ce qu'on dit et à tout ce qu'on fait. Parce que on n'a pas vraiment une communauté en France à cette époque-là pour apporter ce support féministe. Donc la théorie, les regards sont très importantes parce qu'elles nous permettent de poser des questions sur ce qui se passe en France. Mais il ne faut pas nécessairement imposer ces théories sur la situation française, ou il faut le faire avec beaucoup d'attention, c'est ce que je dirais.
C'est une question qu'on a aussi rencontrée lors d'un précédent chantier qui s'appelait Le corps des hommes, et où, lorsque nous avons cherché des écrits sur la masculinité, on s'est trouvé bien en peine, oui, sur... à l'université française. Alors, ce serait assez tentant de penser à une forme d'angle mort de la pensée française ou de la recherche française sur ces questions-là. Est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas, pourquoi est-ce que les États-Unis se seraient donné davantage les moyens de faire ce travail-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre Alors, c'est pas un silence complet, hein. C'est évidemment pas du tout un silence complet de la recherche française. Néanmoins, c'est beaucoup moins foisonnant que sur plein d'autres questions, ça je peux vous l'assurer.
Oui, alors je pense, en effet, il y a des textes qui existent en français qui sont de très très bonne qualité, que j'ai lus, donc ça c'est moins ça. Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, et parfois c'est une faiblesse aux États-Unis, mais la question des identités est non seulement beaucoup plus présente dans l'académie et dans le monde universitaire, mais aussi est formellement représentée dans des départements qui traitent, par exemple, il y a des départements même à Penn State où je suis, des femmes, du genre et de la sexualité. C'est un département formel indépendant. Donc évidemment, dans ce type de contexte, il y a un espace pour penser des questions de genre, de corps, de tout cet aspect-là de la chose. Pareil pour tout ce qui est, il y a des départements d'études africaines et afro-américaines. Et dès lors, ça peut poser des problèmes, justement, parce que il y a des tensions ensuite sur comment représenter, est-ce qu'on reste trop encerclé, comment est-ce qu'on fait entre ces départements et les départements d'histoire classique, bon, il y a toutes ces tensions-là, évidemment, mais je pense que ça provoque aussi ce type de possibilité de questionner le corps, la virilité, la masculinité ou les masculinités, comme on dit, des questions de genre qui sont très compliquées et d'intersectionnalité, parce que l'intersectionnalité, en réalité, ça a été pensé même pas par une historienne, mais par une chercheuse en droit qui s'appelle Kimberly Crenshaw et qui travaille en Californie. Et c'est elle qui a lancé vraiment cette idée il y a plus de 20 ans, qui vraiment maintenant, depuis 5 ans, on en parle beaucoup en France, mais qui n'était pas très présent avant non plus.
Et d'ailleurs, des départements se forment. Normalise aussi en France, dans l'université française, avec ce genre de spécificité, oui. Et que peut-être que d'un seul coup, plein de thèses vont arriver.
C'est tout à fait possible, oui.
Sur le modèle américain, dont Leonora Miano disait qu'il fallait prendre garde à ne pas proposer aux personnes noires et qui plus est aux femmes noires en France que des modèles qui se polariseraient sur les États-Unis. Laurette Zafou, comment est-ce que vous vivez ça, vous?
Je pense qu'en fait, qu'il y a plusieurs strates en fait qui expliquent cette polarisation, à la fois du côté de la production. Déjà, qui a accès à ces espaces universitaires? Il arrive très souvent que des femmes noires chercheuses disent qu'elles n'ont pas trouvé soit de directeur de thèse ou qu'elles ont eu un rejet par rapport à certaines universités ou que le plus souvent, et c'est très fréquent, qu'elles aillent soit dans des pays anglophones pour pouvoir travailler sur ces questions-là. Donc déjà, rien que dans le fait d'accéder à ces espaces, c'est compliqué.
Structurellement.
Structurellement. Après, qui publie aussi, qui traduit ces textes, il y a tout au niveau de l'édition, et je pense, et toujours dans la transmission, en fait, on a plusieurs barrières que les femmes noires... essaie en vain et depuis des années, même depuis les années 90, d'outrepasser en France et faute de quoi partent finalement aux États-Unis. Donc je pense que ça explique aussi cette polarisation sur le fait que même des savoirs français migrent finalement faute d'avoir des ouvertures sur le terrain. Mais aussi dans la représentation même de l'histoire de l'afroféminisme en France, on a, je pense que c'est à cause de la visibilité, hein, mais on a cette idée que l'afroféminisme, on le présente parfois comme quoi l'afroféminisme est né il y a 5 ans ou 4 ans avec cette espèce de mobilisation via les réseaux sociaux. Or, elle a commencé avec la coordination des femmes noires des années 70, elle était même encore là avant avec les premiers textes de témoignages de femmes esclaves, etc. etc. Il y a toute une tradition qui était déjà là. Ce qui a émergé, c'est l'accès et finalement la diffusion de tous ces savoirs en fait via les réseaux sociaux et la vulgarisation entre guillemets.
Et par conséquent l'ampleur
éventuelle que ça peut l'ampleur, etc. Après, ce qui est clair, c'est à mes yeux, on est dans une démarche d'émancipation, dans le sens où les communautés afro-descendantes en France sont si diversifiées que ce serait même du non-sens en fait d'apposer une grille de lecture strictement afro-américaine. Typiquement, rien dans l'afroféminisme, il y a divers courants en fait. On le présente souvent donc sur des thèmes thématiques un peu larges comme la femme noire entre guillemets ou les femmes noires en France. Mais dans cette espèce dans ce groupe, il y a pour certaines femmes donc qui ont été par exemple éduquées avec deux parents d'Afrique subsaharienne avec une éducation subsaharienne, la question de la tradition dans un contexte français, il y a aussi la question donc de la religion qui est propre aussi à certains pays d'Afrique subsaharienne aussi, il y a la question aussi de voir comment on met la place de nos origines, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure sur le terrain français en fait, comment c'est perçu par rapport aux us et coutumes entre guillemets. Il y a la question du panafricanisme aussi, qui est vraiment héritier de de ces débats anti-impérialistes en fait. Quel panafricanisme peut-on voir aujourd'hui en France? Est-ce qu'il y en a un dans l'afroféminisme? Bref, il y a tellement de recroisements, et en plus, je pense encore aussi aux Antilles françaises, qui amènent aussi avec leur identité caribéenne et donc toute leur culture. C'est hyper vaste. Et cette diversité-là, les Afro-Américains, la grille de lecture afro-américaine n'est pas du tout adaptée pour l'analyser. Et je pense que parfois, on reste... parfois, il y a aussi cette démarche de certains Afro-Américains de prendre comme sujet, les luttes afro-péennes et de vouloir aussi apposer ce qu'ils ont vu et vécu sur nos vécus, alors que c'est un non-sens, à mon sens.
Et d'ailleurs, de toute façon, vous faites éclater l'idée d'une polarisation unique, puisque depuis le début de l'émission, vous faites référence à des textes qui sont venus de l'Afrique subsaharienne. Ou alors à des auteurs qui viennent des Antilles.
Puis même ce dialogue transcontinental, enfin c'est comme le disait Jennifer, il était d'actualité pour les Sénardales, mais il est encore d'actualité aujourd'hui avec les communautés afro-brésiliennes. C'est très très vaste, vraiment.
Jennifer Boitin.
Oui, d'ailleurs, je voulais revenir sur cette question parce qu'une des choses qui me frappe pendant les années 20 et 30, c'est que justement, qu'on soit à Bordeaux, au Havre, à Paris ou à Marseille, l'expérience des Noirs est très différente, qu'on soit docker ou qu'on soit étudiant à Paris, c'est pas du tout la même expérience. Donc, il y a des différences de, non seulement de langue et de culture, mais de classe,
oui, de classe,
de travail, d'éducation.
Et même d'histoire des lieux. Vous prenez des ports que sont le Havre et Bordeaux, qui ont en plus une histoire et un passé. C'est en rapport avec l'esclavage, c'est pas exactement la même histoire celle de Paris, très urbaine. Et ouais, c'est en effet la géographie même dans laquelle ça s'inscrit.
Oui, exactement. Oui. Et pareil, on a les textes des sœurs Nardelles, mais il y a d'autres voix de femmes qui n'existent pas ou qu'on ne retrouve pas, ou je ne trouve qu'un seul nom ou un demande de rapatriement, deux lignes avec aucune histoire par derrière. Mais je sais que c'est toute une histoire d'une femme qui s'est retrouvée en métropole, qui n'arrivait pas à rentrer chez elle, qui a dû demander un aide de la part du gouvernement pour rentrer. Donc il y a cette histoire-là qui existe, qui est très importante, mais qui est occultée quelque part parce qu'il n'y a pas les traces écrites pour aller avec. Donc je pense que c'est important aussi de prendre tout ça en compte.
La lutte même des nounous noirs ne sera pas la même que la lutte d'une femme noire dans un contexte universitaire. Enfin, c'est très large.
Ouais. Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
Et je le disais en début d'émission, on ajoute à cette distance, à ces détours, celui du temps, car on choisit de faire entendre toute cette semaine des archives d'intellectuels, d'artistes, de chercheurs étrangers qui parlent de leur passage ou de leur arrivée en France. On a beaucoup cité son nom depuis 14 heures, celui de Josephine Baker. Ici, on l'entend en 1949, en juin, avec sa mère et sa sœur au micro de Marcel Sauvage, ça ne s'invente pas, pour la RTF.
Ma maman, ma sœur et mon beau-frère sont ici définitivement en France. Et je suis très heureuse parce que, voyez-vous, juste avant le départ d'Amérique, le malheur veut toujours que les choses désagréables arrivent. Et il paraît que les gens l'ont dit, enfin, les personnes américaines, couleur bien plus claire que la nôtre, ont demandé de ne pas venir en France parce que, en France, on n'aime pas les gens de couleur. Et ma mère est tellement heureuse et tellement enchantée, elle ne revient pas. Elle se dit tous les jours, elle se met à genoux parce qu'elle est très pieuse. Et elle remercie le ciel de l'avoir envoyée en France. Parce qu'avant de mourir, elle dit, et je ne voudrais jamais que ça arrive, elle dit, enfin je sens que je suis quelque chose et quelqu'un est égal à des autres, malgré que mon couleur n'est pas la même.
Mais j'aimerais qu'on entende un peu sa voix au micro. Est-ce que vous croyez qu'elle peut nous parler? Elle ne parle pas très bien français.
Non, non.
Vous pouvez peut-être lui poser une question
en anglais. Qu'est-ce que je peux lui dire, maman? Won't you say just say hello? Well, how Carol can say, can you thank the French people for the kindness and how nice they've been to me since I've been in France all these years? Just a few words.
Truly, I do thank the French people for being so kind and courteous to my daughter, Josephine. This, who is speaking now, is the mother. I have been here about 6 months, and truly that I'm very, very glad to be here. I found out, since I've been here, that the colored people is treated very nice and sweetly, and I'm glad to be here. I thank you.
Josephine va traduire.
Mama says... I didn't know what to say because it's so wonderful. I didn't expect her to... Je m'excuse.
Une autre révélation dans la famille de Madame Josephine Baker, c'est que sa maman parle fort bien au micro. Et elle a d'ailleurs une sœur qui est aussi là, Margaret, n'est-ce pas? Et qui est une femme étonnante.
Je dis tout simplement que maman disait qu'elle est très très heureuse d'être ici en France et d'avoir constaté que les Français aiment réellement les gens de couleur.
On dit qu'on est l'un des des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Est-ce les grands arbres noirs, chaque soir, vers elles sont battus, mon espoir. J'ai deux amours.
...1949, je le disais, pour cette étrange, édifiante archive de Joséphine Baker. Juste une petite réaction, Jennifer Boitin.
Alors, très rapidement, une des grandes forces de Joséphine Baker, c'est qu'elle savait comment faire pour le marketing. Maintenant, dans les années 20 et 30, elle a compris que jouer entre l'aspect colonial, qui a été un de ses rôles vraiment de prédilection au départ, mais aussi jouer la française en même temps, pouvait être une grande force qui permettrait aux Français de l'adorer. Et en 1937, quand elle est devenue française en épousant un Français, elle était vraiment heureuse de se sentir chez elle, en France.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir été ici. Puisqu'on évoque la figure de Joséphine Baker, simplement dire que ce vendredi 24 mars 2017 à 21h à la Cité de l'Histoire et de l'Immigration, à travers l'évocation poétique et musicale de Joséphine Baker, Jade Herbulot interrogera avec humour cette image paradoxale justement. Donc c'est un spectacle qui reprend bien des chansons de Joséphine Baker. Je vous encourage à aller l'écouter. J'espère que je pourrai en faire de même. Jennifer Boitin, on invite tous les éditeurs de la place en France, hein, et Dieu sait qu'on en a parlé, à traduire Colonial Metropolis. Comme ça, on pourra tous le lire. Pour l'instant, on peut le commander via votre éditeur américain. Est-ce que vous pouvez le rappeler?
Absolument, c'est Nebraska, mais on le trouve sur Amazon aussi, tout simplement.
À main nue, en tout cas, ça, ce sera trouvable hein, oui, en France. Ça sort aux éditions Synapse et ce sera le 20 mars en librairie, il me semble. Et puis, je rappelle le titre de votre blog, ça s'appelle Mrs. Roots. Et puis, puisque j'ai aussi évoqué son nom, on peut signaler chez Cambourakis, Reclaim, le recueil de textes écoféministes, Des femmes contre des milices, ça c'est Rêve, idées et actions à Greenham Common, et De la marge au centre, théorie féministe, Bell Hooks. ...14h58 sur France Culture. Vous pouvez réécouter les nouvelles vagues sur franceculture.fr, l'émission d'aujourd'hui mais aussi l'émission d'hier, et puis vous verrez celle de demain sur cette page les nouvelles vagues franceculture.fr. On peut aussi s'envoyer, petite enveloppe rouge, des mots doux ou pas doux, comme vous voulez. On est toujours très content de vous lire. Twitter et Facebook pour aussi continuer d'échanger. Dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange, et moi je vous dis demain, même heure, même chaîne.